hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De plus en plus d'opium à Guillaume et c'est à Boulou d'en trouver. Car il ne bouge pas et ne peut bouger. Boulou a des difficultés pour en trouver. Il lui faut de plus en plus d'argent, ce qu'il vole sur les marchés, les vêtements, les fripiers, les portefeuilles, montres ne suffisent pas. Il sait que de riches messieurs donneraient beaucoup pour un moment avec lui. Mais de cela, il ne veut pas. Ça le dégoûte qu'on le touche. Guillaume, ce n'est pas pareil. Lui a le droit. Il fait partie de son monde, de sa famille, en entier, à lui tout seul. Père, mère, frère, plaisir, peine. Mais les autres, rien. Ce sont les ennemis. Et ils n'auront rien de lui. Par contre, lui, leur prendra à eux pour lui et Guillaume. Un jour, après une journée harassante, Boulou revient vers Guillaume sans drogue. L'enfant entre dans la pièce. Guillaume est debout, les membres tremblantes, le regard fou, et regarde Boulou qui s'approche de lui.
Tu as l'opium ?
L'enfant fait non de la tête. Guillaume se met à genoux et pleure devant Boulou. L'enfant ne sait que faire, se sent coupable.
J'ai pas réussi. Chinois était intraitable avec les prix. Je te jure de me croire.
Guillaume se relève.
S'accrochant à Boulou,
il semble comme fou. Secoue l'enfant.
Qu'en as-tu fait? C'est toi qui l'as pris.
Non, je t'assure, je n'en ai pas.
Il le frappe. L'enfant tombe à terre.
Guillaume voit tout tourner.
Des lumières étranges. Des formes bizarres.
Il voit apparaître devant ses yeux une énorme araignée.
Il recule, elle avance, il a peur. La bête rampe à terre vers lui.
Non. Non.
Il a peur. Tous ses membres tremblent, ses yeux fixent.
Une chose horrible. La bête énorme avance vers lui.
Guillaume recule.
La pièce tourne,
cela lui donne le vertige et cette bête horrible qui rampe vers lui.
Elle est noire, avec des touffes blanches.
Guillaume est terrorisé.
Il sent que son dos a touché le mur. Mais qu'y faire? Il se sent perdu.
Il va être dévoré par le monstre.
La tête lui tourne. Toute la pièce tourne.
Il y a des lumières de toutes les couleurs et cette horrible chose qui s'avance vers lui.
Il sent des fourmis sur tout son corps.
Regarde, voit que les fourmis montent sur lui. Ses mains sont pleines. Il est en sueur. Il se dégoûte sans les fourmis le grignoter.
Et tout à coup, cette araignée qui essaie de monter sur lui, elle aussi.
Il sent ses pattes qui s'agrippent à ses jambes et qui montent, montent, montent.
Il est comme paralysé.
Tout à coup,
il voit la lampe, une lampe à pétrole que Boulou a trouvée, qui lui servait à s'éclairer.
Elle est sur une caisse, éclaire sa lumière.
Une lumière vivante qui bouge.
C'est insupportable à Guillaume.
Les bêtes qui montent sur lui.
Il sent avec dégoût et terreur que la patte de l'araignée monte sur ses cuisses.
Des pattes, des pattes, des pattes ensuite.
Il est comme paralysé, il n'ose pas bouger.
Il aimerait s'y libérer de cette bête.
Mais il est comme paralysé. Et puis, cette flamme qui l'hypnotise.
Il n'en peut plus. D'un geste brusque, il la fait tomber à terre, à ses pieds.
Le feu prend vite.
Avant qu'il ne s'en rende compte, il est pris dans un brasier. Et lui et l'araignée, qui est accrochée à lui, qui crie.
Puis, pour lui, le feu, ce n'est que de la lumière.
Une belle lumière, il a chaud,
Elle commence à sentir les brûlures. Tout à coup, pendant une seconde, il voit la réalité. La pièce en feu, lui qui brûle à ses pieds, brûle aussi bien, ne peut rien faire. Il est pris, encerclé, la chaleur, la fumée. Il sent sur son corps, de partout, des brûlures de plus en plus douloureuses, de plus en plus vives. Et tout à coup, il sent ses pieds s'enfermer. Il brûlait, puis il voit du rouge, du jaune, du rouge, grande douleur, ne tient plus debout. Le trou noir. Il est mort. Ils sont morts. La maison a pris feu en entier. Les pompiers sont venus éteindre le feu et empêcher qu'il se propage. On n'a pas retrouvé de corps, on n'a jamais su qu'il y avait deux personnes dans l'immeuble. Personne ne sait que Guillaume et Boulou ne sont plus. Hubert a de plus en plus de difficultés et en a assez qu'on le fasse chanter. Il est dans la chambre de son hôtel et marche en réfléchissant.
Il faut que je me débarrasse de ce maître chanteur. Je ne veux plus en entendre parler. Pour une fois, je tuerai par légitime défense. Voyons, je l'invite chez moi pour une partie de chasse. Et là, paf, en pleine campagne, j'en fais mon affaire. Oui, mais attention. Il faut que j'aie le fils aussi. Lui aussi est à supprimer.
Pendant ce temps, sa femme, Armande, se languit. Les journées lui sont longues et tristes. La tante est toujours derrière elle. Elle la surveille. Elle ne peut même pas aller dans une pièce sans qu'elle la suive. Toujours elle entend derrière elle les pas énergiques de la tante et le bruit de ses clés. Les repas de la salle à manger sont interminables avec la tante devant soi. Sous prétexte qu'elle a un dentier, elle met un temps fini à mastiquer. Les repas se passent en silence et, pour surplus de malheur, les jours sont tristes, humides et gris. Il n'y a rien à lire, tous les livres ont été enlevés par la tante. Les soirées se passent au coin du feu, tante tricote pour les pauvres du village et Armande ne peut que regarder le feu. Elle se rappelle ces soirées qu'elle organisait à Paris, les courses dans les magasins, de la messe le matin et des visites des pauvres. Elle se dit, j'ai perdu tout cela, c'est de ma faute, je dois payer. Mais mon Dieu, ne faites pas trop durer ce supplice. Même si vous ne me voulez pas au paradis, mettez-moi au purgatoire.
mais ce sera mieux et tout aussi bien que cette vie que je mène. Oh mon Dieu, je vous en supplie, sortez-moi de cette vie.
Un jour dans le salon, elle trouve un journal de Paris, vieux de 15 jours. Par curiosité et ennui, elle le lit. Le manque de lecture lui fait tout lire, même les annonces. Par hasard, elle tombe sur un faire-part annonçant le mariage d'Hervé d'Anvers avec Mademoiselle Hélène Romain. Cette nouvelle la retourne. Elle lit plusieurs fois pour voir si elle ne s'est pas trompée. Non, c'est bien lui. Voilà la date du mariage. Ce qui lui fait mal, ce n'est pas qu'il se marie, mais la date de son mariage. Si tôt, c'est la preuve qu'il ne m'a jamais aimé. Il a dû la connaître en même temps que moi. Il ne m'a jamais aimé. Tu as été joué, ma vieille. Chouée, ma vieille. Reste un moment songeuse, puis se dit, je devrais essayer, essuyer cet affront. Oui, essayer d'essuyer cet affront. Aller chez lui et le tuer. J'en ai pas la force. Non, j'en ai pas la force. Reste un moment assise, et se dit, c'est normal, ma vieille. Tu es vieille pour lui. On s'est moqué de moi. Une autre va l'aimer. Et moi, je vais continuer à souffrir pendant des années ici, à sachant que l'on est. Que l'on est heureux. On s'est joué de moi. Pourquoi devrais-je souffrir autant de temps? Toute une vie. Elle reste un moment sans réfléchir, puis pose le journal sur la table, se lève pour aller dans le jardin. Il fait frais, mais ne sent rien et ne remarque pas qu'il n'y a pas de pas ni de bruit de clé derrière elle. Le vent, la fraîcheur lui font rien. Elle marche d'un pas calme, mais sûr d'elle. Derrière le château, au fond du parc, se trouve un étang. Elle y va, s'y approche. Elle regarde autour d'elle, les vieux yeux au ciel, calmement, calmement. Elle s'approche de l'eau, elle marche, avance droit, comme si elle ne marchait sur terre, car elle touche le fond. Mais l'eau monte petit à petit, elle enveloppe. Elle a disparu, sans un bruit, comme ça, enveloppée, cachée par l'eau. Pendant ce temps, la tante prend le journal de dessus la table. C'est Hubert qui l'a envoyé pour que sa femme le lise, et elle aussi. La tante, une fois qu'elle l'a lu, a pensé à la somme que lui donnera Hubert à la mort de sa femme pour la remercier de l'avoir surveillée et servie. La tante sait qu'elle va bientôt rentrer chez elle avec une bonne somme. La mort de sa femme ne l'a pas ému ou surpris. La nouvelle l'a laissé indifférent. Il a d'autres soucis en tête. Les amis de la famille n'ont pas été surpris non plus. Ils savaient qu'elle avait une maladie de mélancolie et pensaient que c'était dû à la disparition de son fils. Elle était enterrée dans le petit cimetière du village et la tante est partie avec une bourse bien remplie. Bear ne pense ni à son fils ni à sa fille et ne regrette pas sa femme. Il est absorbé par ses affaires d'argent et cela l'énerve. En plus, il y a cette jeune fille, Claire, qui fait l'enfant, qui ne comprend pas ce qu'il désire, à moins qu'elle soit une allumeuse. Ça, c'est fort possible. Hubert marche au hasard dans les rues. Il pense, la tête en feu.
Il faut absolument que je l'aie. Je suis veuf. Je peux lui demander un mariage. Je suis libre. Je lui demandais la main à sa mère, oui.
Après avoir décidé cela, il appelle un fiacre et va chez la mère de Claire. C'est Claire qui le reçoit. Ah, c'est vous, tonton Hubert?
J'aimerais parler à ta mère.
Elle est absente, mais vous pouvez entrer l'attendre. Il entre. L'appartement n'est pas très grand, mais bien tenu, et les meubles sont de qualité, lui Philippe. Elle va le faire asseoir au salon. Désirez boire quelque chose?
Non, merci.
Elle voit qu'il est énervé, nerveux.
J'ai pris une grande décision, ma petite. J'ai décidé de demander ta mère à ta mère.
Claire, surprise, s'assoit. Elle lui dit, je suis très touchée, mais je ne vous aime pas. Ou plutôt... si bien, comme un ami. Il ressent un coup, puis furieux, lui dit.
Pendant tous ces mois, vous m'avez cajolé, fait croire que je pouvais espérer.
Elle baisse les yeux et lui dit. Je vous ai cajolé comme un oncle que l'on aime bien.
Oui, c'est cela, comme un oncle que l'on aime bien. On lui fait l'aumône d'un peu de caresse, d'un mimi, et le tout est joué. Mais moi, ça ne va pas comme ça.
Il se lève.
La tire à lui. Elle est surprise.
Il ne faut pas me jouer, ma petite. Il ne faut pas jouer ce petit jeu-là avec moi. Tu ne veux pas être ma femme. Tu seras moins à moi une fois.
Je vais la renverser sur le tapis.
Elle se défend.
Mais faites-moi arrêter.
Non, tu seras à moi.
Et d'un geste, il la fait tomber sur le tapis. Il se couche sur elle. Il veut la soulever. Soulever la robe. Elle se raidit et reste le regard fixe. Les jambes molles.
Ayez pitié de moi, mon Dieu. Pardonnez-moi. Puis tout à coup, quelque chose lui dit qu'elle doit s'abandonner.
Elle devient molle, il le sent. Alors, pris de vertige, il soulève la robe. Mais cet abandon, la prière qu'il a dite, tout à coup, il a honte. Pour la première fois de sa vie, il a honte. Il se lève. Se range. Et sort en courant. Thank you. sait qu'il ne la verra plus. Et pourtant, c'est la seule personne à qui il a eu pitié. C'est la preuve qu'il aime vraiment. Il court les rues comme un fou, puis s'arrête, s'assoit sur un banc et d'un coup comprend que c'est sa punition, cet amour perdu à jamais. Alors il se met à souffrir. Il passe des journées à traîner dans les rues, au hasard, seul, maigre. Il n'a ni faim, ni soif. Il aimerait oublier, tout oublier, mais il ne peut. En marchant, il parle tout seul.
Oh, cette souffrance, je t'aime toujours. Que dois-je faire pour t'oublier?
Le soir tombe.
Je t'aime trop. Je ne peux plus t'oublier. Mon amour.
Il s'assoit au pied d'une fontaine, regarde les gens aller, venir.
À quoi bon tout ça? Qu'est-ce que je fais dans cette vie?
Au bout d'un moment, il en marche.
Je souffre. Je suis trop humain. Je suis trop humain. C'est l'amour de cette fille qui me le fait comprendre. Pourtant, je veux sortir de cette vie. Il n'y a que la mort qui nous sort de ce monde, de ce que nous sommes devenus. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Le paradis perdu nous a été définitivement fermé par Dieu. Nous sommes interdits de bonheur, du bonheur originel. En étant humain et en se fermant, en se formant une morale. L'amour en fait-il partie? Mais cet amour qui est si fort, d'où vient-il? De Dieu, des hommes, est-il humain ou naturel? Ou naturel, je ne saurai jamais. Il fait trop souffrir.
Une vitrine de magasin est encore éclairée et l'attire comme le papillon de la lampe. Il y rentre. En ressort avec un couteau de cuisine, met le couteau dans le manche de sa gabardine et marche au hasard. Les rues sont devenues désertes. Il se met sous une porte cochère d'une vieille maison. Prend le couteau et se donne un coup dans la gorge. Le coup était rapide et la lampe bien aiguisée et a coupé la horte. Six mois plus tard, seul, sans nouvelles de son frère, Camille en demandait à entrer au couvent.
nous aurons la guerre maintenant.
Vous vous trompez, Napoléon la veut, cette guerre.
Pensez-vous, c'est au génie qui le pousse.
Mais c'est son intérêt pour, dans la situation actuelle, une bonne victoire sur les Prussiens. Encore faudrait-il la remporter, cette victoire.
Plaisantez, vous avez lu ce qu'a dit le maréchal de Boeuf devant l'Assemblée. Même si cette guerre devait durer un an, nous ne devrions pas acheter un seul bouton de guêtre.
Alors expliquez-moi pourquoi monsieur Thiers est siac.
Oh Thiers, ce nabo malfaisant.
Excusez-moi mon oncle, vous pouvez venir un instant. C'est très urgent.
Écoutez-moi, écoutez-moi mes amis, mes chers amis, une grande nouvelle. La France vient de déclarer la guerre à la Prusse.
Oh la patrie, le jour de la mort est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tonnards sont grands élevés. Les tonnards
sont grands élevés.
Tu peux pas partir,
t'es... Ah bah non, ça je peux pas partir, non, je suis trop malade. Faut être en pleine santé pour mourir à la guerre. J'ai vraiment de la chance, hein, Alice. J'ai vraiment de la chance.
Vous n'avez pas honte, non, entre Français? Allez, baisse les mains, Morin. Non,
moi. Mais monsieur, regardez la bonne soldat.
Premier septembre 1870, bataille de Sedan. Capitulation de MacMahon et Napoléon III. Napoléon III prisonnier.
Yeah. commandant de bataillon. Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous saluer au nom du 115e bataillon d'infanterie.
Napoléon III prisonnier, sous l'initiative de Gambetta, le 14 septembre, proclamation de la République et constitution d'un gouvernement de défense nationale. Début du siège de Paris.
J'ai le cœur trop plein de joie pour prononcer un discours. Permettez-moi seulement de glorifier le peuple de Paris qui vient de donner au monde un exemple immortel. Une fois encore, le peuple s'est dressé tout entier contre la tyrannie.
Qui c'est?
C'est Ranvier, le maire
encore,
de Belleville.
Il a pris en main son destin car il veut vivre
de la commune.
Et mourir libre.
Et jamais ému, nous a Paris salué, acclamé sa révolution.
Mais... Excusez-moi, monsieur. Je voudrais voir monsieur Varlin, s'il vous plaît.
Le citoyen Varlin. Il est en réunion, le citoyen Varlin.
Et dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous montrerez tout ça à vos enfants et vos petits-enfants, vous leur direz, j'y étais. Oui, messieurs, dames, j'y étais.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voir.
communards ont été battus partout. À Meudon, à Chatou, à Bougival, partout. Ils ont filé comme des lapins.
Sauve-toi, sauve-toi.
Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire?
Mais je m'en tirerai, ça ne sera pas la première fois, attends.
Vous attendiez?
Pas ça.
Janvier 1871. Paris capitule. Février 1871. Préliminaire du paix. Du pacte de Versailles. La France perd l'Alsace et la Lorraine. Indemnité de guerre. 5 milliards de francs or et occupation pendant 3 ans de la France de l'Est.
Monsieur le ministre de l'Instruction publique.
Messieurs les députés, il y a 9 ans,
députés, préfets de police, vu l'article 204 du Code pénal, vu les décrets du 29 mars 1880, arrêtons. Article 1er, la chapelle établie à Paris, rue de Sèvres, 33, est fermée à partir de la date du présent arrêté. Les scellés seront apposés sur toutes les portes de la dite chapelle. Article 2, soit qu'elle donne accès sur la voie publique, soit qu'elle établisse une communication avec les bâtiments de la
monde,
dite de Jésus.
Glorifie,
que Canut vous a présenté dans sa série d'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la 11e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. La confusion des hommes, 11 heures d'émission, 2200 mètres de bande magnétique, 165 heures de préparation, 44 heures d'enregistrement, 254 pages dactylographiées.